Bonjour et bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, l'humeur de Frédéric Sigris et l'info maltraitée par Tanguy Pastureau. Au programme aujourd'hui, François Damiens, la bande originale d'Eric Orsena et en live, Azaf Avidan, le meilleur de la bande originale. C'est parti. Tout va bien François ?
Ça va bien.
Merci mille fois de venir à ce micro, merci mille fois parce qu'on a vu au témoin d'un doute et nous avons, enfin j'ai, je sais pas toi.
Oui, je valide.
Adoré.
C'est pas mal.
Ce film. Ça, bah, lui, il a
ouais,
pas vu.
Mais c'est un film, hein. C'est fantastique.
Non, c'est vraiment bien. Au témoin d'un doute, l'histoire, c'est un film de Karine Tardieu avec Cécile de France, Guy Marchand, André Wilms, qui est juste extraordinaire. Enfin, tout le monde est formidable. Alice de Langsin, Esteban, qui est dinguissime, qui fait partie des Naïve New Beaters, le leader chanteur des Naïve New Beaters.
Esteban.
Il y a un petit clin d'œil. On entend dans la BO du film, à un moment donné, les Naïve New Beaters dans un bar, si ma mémoire est bonne.
Ouais, il est passé chez toi à Taratata.
Mais plus d'une fois, et il reviendra quand il veut. Lui.
Sous-entendu.
Je peux pas venir.
Mais et vous alors, François Damiens, vous êtes le papa d'une fille qui attend un bébé et comme plein d'auditeurs et d'auditrices ont dû connaître ce genre de situation, quand il y a un petit doute médical dans la famille, on pose des questions sur les antécédents familiaux et à partir de là.
Antécédents familiaux.
Ouais, voilà. Des antécédents familiaux.
Ouais. Mais
et médicaux et
français.
Oh ça va,
le
con. Je viens de plus loin. Monsieur, donc un peu de respect. Si
on comprend en montage, Nagui.
C'est dans des temps médicaux et familiaux. Et de là, ben, vous allez apprendre ce qui. On peut le dire, je ne sais pas ce qu'on peut dire.
Trop tard, Nagui.
On va
apprendre que votre papa est marchand.
Mais si tu veux me mettre un piège, tu me demandes de pitcher le film. J'y arriverai jamais parce que c'est trop compliqué. La réalisatrice a. Moi j'ai eu très peur quand j'ai fait ce film parce que j'ai l'impression qu'elle voulait mettre 2 litres dans une bouteille d'un litre. Mais heureusement qu'il y avait une fuite.
La fameuse fuite salvatrice.
C'est vrai, en effet, il y a plusieurs degrés, mais le premier, vous apprenez.
Nagui, j'ai du mal à t'écouter parce que je regarde ton t-shirt et j'ai l'impression d'être en vacances. T'as le bleu grec là.
C'est le bleu.
Le bleu azur. Grec des Cyclades.
Ouais, c'est ça.
Ah,
ouais, on est d'accord.
J'adore les Cyclades.
C'est beau, hein. On parlera fringues plus tard tous les deux parce que là, c'est très gênant ce qui se passe, François, entre vous et moi.
Ah, c'est un peu excitant.
On a fait des photos.
Encore. C'est déjà fait.
Non. Le point de départ est sur la paternité.
C'est vrai que c'est hyper grec comme
le paternité.
Mais arrêtez. votre fille est enceinte et elle ne sait pas qui est le papa. Deux, vous apprenez à propos d'antécédents familiaux que vous n'êtes pas, que votre papa n'est pas votre papa.
Ouais.
Que celui que vous appelez papa n'est pas votre père biologique.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué.
Non.
François, faites un effort, on va pas tenir 1h30 comme ça.
Mais je vais faire un effort, je suis là. Ouais. Je suis déjà très content d'être là.
On est ravis.
Et
donc
nécessairement, vous lancez dans une forme de quête, une quête identitaire, qui est celui qui vous a fabriqué en somme.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est très compliqué, hein, se rendre compte que son père n'est pas son père.
Ah, des fois, ça peut être une chance.
Ben oui, mais vous savez ce que c'est, une famille, être père, comme disait...
Jésus ?
Non.
Pardon.
Non, Pascal
Albert.
Obispo.
Moi, je sais pas.
Rocco. Jésus l'a dit, Pascal Obispo l'a dit aussi.
Deux grands hommes.
Ouais, c'est
le même, d'ailleurs.
Non, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué, oui. C'est un film qui parle de la filiation, de la paternité, de... qui on est, et puis c'est quoi être père, déjà.
Ouais, est-ce que
on sait que ça va très vite d'être père, hein. ça met 30 secondes, mais après ça...
Oh, 30 secondes, gros menteur.
Vous êtes du genre marathonien.
Ça va être une grande émission,
j'ai l'impression aussi. Non, mais parce que non, ce qui m'enquiquine, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas très clair pour nos auditeurs. Oui. Or, le film est... parfait.
Limpide.
Il est limpide, il est extrêmement...
Comme de l'eau grecque.
Non, il est limpide parce que vous allez être grand-père, votre fille va être maman, et au milieu de tout ça, il y a un docteur qui arrive et qui chamboule tout ce à quoi vous attendiez. Vous êtes en plus des mineurs, et là, ça arrive comme une bombe et sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire votre vie explose dans tous les sens. Ce que vous pensiez être normal, traditionnel, Guy Marchand joue le rôle de votre papa dans le film, bing, vous apprenez que c'est pas votre père. Donc vous allez chercher votre père biologique, vous allez demander à une
détective
privée qui est...
Il y a du mal ce matin, Zorba.
Formidable.
On a tous du mal ce matin.
Un détective privé d'aller chercher votre papa.
Hein.
Et là, elle découvre découvre votre père biologique et donc vous allez l'observer, vous allez vous demander est-ce que je vais le lui dire, est-ce que je vais
le
révéler.
Non.
Quoi, non, il faut pas le dire.
Quoi? Non, il faut surtout pas le dire.
Si, vous cherchez votre père biologique dans le film quand même. Comme votre fille cherche.
C'est pas vraiment.
Ah, vous cherchez quand même, si, et François Damiens, vous cherchez.
Non, pas, non.
Bah, si.
Je reviens. Je suis à deux doigts de quitter cette émission.
Mais quelle émission?
Votre personnage cherche son père biologique, contrairement à votre fille. Votre fille ne cherche pas le père de son enfant. Elle considère qu'elle peut élever son enfant tout seul. Elle dit, voilà, j'ai couché avec Zorro dans un bal masqué et je cherche pas à savoir. Voilà, je cherche pas à savoir qui est cet homme, quelle est l'identité de cet homme. Contrairement à vous, François, aidez-moi, parce qu'à un moment, je
sais pas si c'est censé être plus clair, en fait.
Mais non, mais j'essaie de faire parler.
Je casse tout, mais
parce que mais non, vous cassez rien.
Mais quoi, vous l'aimez pas ce film?
Et si, je l'adore. J'ai eu tellement mal à le faire, vous pouvez même pas imaginer.
Qu'est-ce que vous avez eu du mal à faire?
Qui m'a coûté le plus.
Pourquoi? Parce que vous avez une partenaire exceptionnelle, c'est Cécile de France.
Oui, ça,
on en a pas parlé encore.
Je gardais ça pour la bonne bouche quand même, parce qu'elle est juste exceptionnelle. Vous tombez amoureux de Cécile de France.
Une histoire d'amour là-dedans.
C'est plus la fiction.
Il était compliqué à faire ce film, pour être honnête, sincèrement.
Pourquoi?
Je n'ai jamais eu autant de mal à faire un film.
À quel niveau?
Parce que c'était une histoire qui me touchait très fort, déjà. Et puis ensuite... Karine Tardieu, la réalisatrice, c'est vraiment une grande réalisatrice. Hein. Sincèrement, son film était écrit au ciseau, et magnifique, mais c'était très compliqué de faire ce film ensemble. Ça a duré 9 semaines.
C'est compliqué parce qu'il y a trop de psychologie, il y a trop de tension, touche en profondeur.
Voilà, c'est ça. Ça me touche en profondeur, d'une part, et d'autre part, moi, je suis un peu en accident, comme ça. J'aime bien les dérapages, j'aime bien le feeling, à l'instinct.
Donc l'autorité, la direction, voilà, c'est compliqué.
Et Karine, elle aime bien tout contrôler, quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a fait ça en Bretagne et qu'elle a la météo en Bretagne.
Non, le problème, c'est que surtout, c'est très bien. C'est-à-dire qu'elle a tout maîtrisé, qu'elle vous a dirigé, que vous n'êtes peut-être pas toujours laissé faire. Mais ce qu'elle est allée chercher chez vous, que ce soit dans votre histoire personnelle ou dans la fiction qu'elle a écrite, est formidablement touchant dans le film.
Oui. Il faut aller le voir, en fait, c'est difficile de parler dessus. Moi, j'ai...
Faut donner envie d'aller le voir aussi, hein, François.
Non, mais moi, je vous dis...
Le film a déjà été...
Je vais dire un truc, hein, c'est que ma femme m'a dit c'est ton plus beau film. Voilà.
Bah ouais, là, tout est dit. J'espère...
On aurait dû l'inviter.
J'espère, mon cher, je sais même plus.
C'est Jean-Dominique.
J'espère, Jean-Dominique Besnard, que vous avez compris pourquoi on a invité François Damiens. Parce que.
Ah, je sais pas, poché. Mais quel binge ce matin. Et vous cherchez à me faire passer pour un insouciant. Bien sûr que c'est la raison de sa venue à François Damiens.
Pourquoi Jean-Dominique
Oui, vous m'avez exaspéré. Du coup, j'ai oublié de saluer les gens de la bande originale.
Salut
les artistes ratés. Salut François Damiens.
Salut.
Alors, une précision. Moi, c'est Jean-Dominique, orthophoniste des stars, du showbiz, cinéma, chanson, one-man show aussi. Hein. Alors, pas de confusion avec mon cousin, Dominique Toucou, qui est affligé d'un zozotement insupportable. C'est pas un cheveu qui est sur la langue, c'est une touffe. Et on peut le retrouver, je signale, tous les dimanches dans l'œil du Tic sur France Inter, mon cousin. Bon. Alors, je reviens à vous, François. Attention, je serai cash. Question de franchise. Juste avant l'émission, pour que vous le sachiez, Nagui a piqué une de ses criges. Tout son staff était terrorisé.
Bien sûr.
Alors, il a dit ça, Nagui. Qu'est-ce que c'est que ce binge? François Damiens s'est invité et pas Cécile de France. C'est insensé. Il dit n'importe quoi, François Damiens. Encore un Belge à accent. Il n'y a plus que ça à France Inter. Mais, déjà précisé GNB, je le rappelle, c'est le rédacteur chef de la chambre bande originale. Cécile de France aussi est belge. Et Nagui, là, il a dit, oui, mais elle est belle. Et Damiens, il est moche. En plus, quand on discute avec lui, on sait jamais si on cesse de se retrouver piégé par une caméra cachée. Ça me fout mal à l'aise. C'est alors, cher François Damiens, que je me suis immiscé dans la controverse pour prendre votre défense. D'abord, mon cher Nagui, je vous ferai remarquer que François est un acteur sensationnel, capable de jouer des personnages d'une grande diversité. D'ailleurs, si mon excellent ami Albert Alloué était là, il vous le dirait. Dans le film Les Hauts Murs, dont il avait écrit le scénario Albert, réalisé par Christian Faure, François Damiens jouait le rôle d'un super salaud, surveillant sadique dans une maison de correction. Il était sans sas, un sacré rôle de composition. Voilà ce que j'ai précisé à Nagui. Et toc, prends ça. Quant à votre accent belge, François, en tant qu'orthophoniste des stars, aujourd'hui, comme vous dites, je vais prouver à Nagui que ça ne vous empêche pas de bien prononcer vos textes. Alors j'ai prévu un petit test de diction. Hein. Vous allez répéter d'abord cette phrase après moi. Alors, je vous l'ai dit, si c'est 500 sans-sus sont sur son sang, sans succès son sang, c'est 500 sans-sus sont sans succès. Vas-y, François. Vas-y.
Si c'est 500 sans-sus...
Non, vous n'êtes pas obligé, non, non. Obligé de faire avec son...
Si c'est 500 sans-sus sont sur mon sein, sans succès mon sang...
Plus vite, super.
Non. Si c'est 500 sans-sus sont sur mon sang, qu'est-ce que j'aimerais bien censé sans-sus, mais la censée n'est pas d'être censée.
Bon, alors... super comédien. Alors... Une petite dernière, mais à répéter. Alors, vraiment, en accéléré. La grosse cloche sonne. Vas-y, allez. Allez, François, plus...
La grosse cloche sonne.
Accélère. Voyez, Nagui, il a vraiment une super diction. Bonne émission.
Merci, Albert Alloué.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
C'est complètement idiot.
Au témoin, oui, mais ça marche toujours. Hein.
C'est stupide.
Dans ce film, le casting est absolument incroyable. J'ai été particulièrement touché par André Wims, qui est émouvant. Alors, tout le monde est juste, tout le monde est parfait dans son personnage. Mais il y a.
André, je suis d'accord.
C'est bouleversant, quoi.
Avec toi, Nagui.
Il est bouleversant.
Ouais, il m'a bouleversé, tout simplement. Et. Il est aussi chouette dans la vie que dans le film.
C'est le genre de papa qu'on aimerait avoir.
Bah, moi, j'avais perdu mon père 6 mois avant le début du tournage.
D'accord.
Et j'ai retrouvé un papa quelque part. Mais il m'a fasciné. C'était le papa dans La vie d'un long fleuve tranquille.
Formidable.
Aussi, après ça, il a fait plein d'autres trucs, évidemment.
C'est un acteur extraordinaire.
Il a travaillé pour Coris Maki, enfin, il a travaillé pour Châtillé, enfin, il a fait beaucoup de choses.
Vous vous êtes posé...
C'est vrai, mais non, mais il a un côté punk.
Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit,
il est contre, en fait. Il commence par dire non.
Ouais.
J'adore ça.
Et même
les gens qui disent non.
Même dans les scènes entre vous deux, c'était ça.
Oui, complètement. Ouais.
Et alors, avec la réalisatrice, que vous disiez tout à l'heure qu'elle aimait bien diriger et décider, il y avait une forme de confrontation.
Ah ben oui, ben lui aussi, hein, il avait du mal. On est des petits chiens sauvages. Hein. On n'aime pas.
Mais vous êtes en procès d'ailleurs avec la réalisatrice. Ça se passe très mal.
Karine Tardieu, j'espère qu'elle écoute
début.
Parce que je l'adore. Et, sincèrement, c'est difficile de diriger, mais c'est facile de diriger par quelqu'un qu'on apprécie. Quoi. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour elle.
J'aimerais bien avoir ce sentiment.
Si elle me propose de travailler,
je pense que Mathieu Gallet va très mal prendre ce que tu viens de dire. Vous avez été difficile. Vous pensez que vous avez été dur avec elle sur.
Je pense qu'elle a eu du mal avec moi. J'ai eu du mal avec elle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle cherchait un rock fragile. Et je suis arrivé comme un rock et elle m'a fragilisé en fait. Elle a même dit, j'ai vu dans des interviews, enfin j'ai lu, c'est un acteur qui donnait le bâton pour se faire frapper. Et c'est vrai, je crois qu'elle m'a un peu désarmé quelque part. Elle m'a poussé dans mes retranchements.
On va reparler tout à l'heure de l'histoire d'amour qu'il y a entre Cécile de France et vous dans le film Au témoin d'un doute qui est au cinéma donc ce mercredi. Mais il y a aussi cette quête donc de la paternité avec aussi cette question qui est de savoir qui est le vrai père. Est-ce que c'est celui qui est le père biologique ou est-ce que c'est qui a donc transmis ses gènes ou est-ce que c'est celui qui a éduqué et qui a transmis l'amour? Est-ce que c'est dans la durée, dans la présence ou est-ce que c'est simplement biologique?
Je crois que c'est dans la durée, dans la présence, quelque part. Mais c'est compliqué.
C'est la leçon du film, vous pensez?
Ouais, moi, j'ai beaucoup réfléchi au film, même si ça se voit pas. Moi, je pense que tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie, et tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et l'espoir fait rire aussi, quelque part, parfois. C'est compliqué, quoi. Moi, C'est très difficile de parler de tout ça, en fait.
Ce qui est difficile pour le personnage dans le film, c'est que il est à la fois, il découvre que son papa, celui qui l'a éduqué, qui l'aime au quotidien et qui le voit régulièrement, n'est pas son père biologique. Il commence à se poser des questions pour savoir mais qui est donc mon père biologique, et en même temps, il n'accepte pas l'idée que sa fille puisse avoir un enfant sans papa, parce que d'un coup, il se rend compte qu'il a besoin de ce repère-là pour avancer, et donc il veut que son petit enfant construit sa vie avec un papa.
Oui, tout à fait. C'est très bien résumé. Mais c'est vrai, on reproduit souvent les mêmes schémas. Et quelque part, quand il y a un secret, déjà, je trouve ça très prétentieux de garder un secret, parce que qui on est pour garder un secret ?
De quel droit ? Ouais.
Mais exactement. Mmh. En plus, qui plus est, c'est même pas un secret que le père garde, parce que c'est même pas le sien, c'est celui de son fils.
De son petit-fils.
Ouais. Oui, mais ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est très difficile de parler de ce film, oui. Parce que
c'est une relation.
On peut pas tout dire, en fait.
Mmh. Non, on peut pas tout dire.
Mais qu'est-ce qui motive votre personnage ? Parce que dans le film,
c'est rempli de rebondissements.
Vous êtes très heureux dans la relation que vous avez avec votre père, celui qui est votre père au début,
joué
à savoir
Guy Marchand.
Mmh. Et tout d'un coup, quand vous apprenez que potentiellement vous avez quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre arbre généalogique finalement, vous commencez à enquêter, à vous en approcher, quitte à prendre de la distance avec celui qui vous a élevé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage à ce moment-là ? Il passe beaucoup de temps avec son père dit biologique qu'il pense avoir trouvé, et quitte à laisser un peu de côté celui qui l'a élevé.
Ou à en vouloir peut-être à celui qui l'a élevé de ne pas lui avoir
dit la vérité.
C'est quoi ?
Qu'est-ce qui se passe dans le personnage ? Pour vous, vous l'avez vécu comment ? Parce que vous l'avez joué, vous l'avez incarné, vous avez dû vous raconter une histoire.
Ouais. Ouais, non, c'est compliqué de parler tout ça. Je veux dire, sincèrement, c'est.
Mais François, pardon.
Mais vous n'avez pas anticipé à la lecture du scénario que ça pouvait vous toucher à ce point-là ?
Trop personnel, oui.
Si ? Ouais, ça m'a touché très fort, sincèrement. C'est un film qui m'a bouleversé, en fait.
Non, mais ça se voit, surtout, ça s'entend pas, mais ça se voit. Bon, on est à la radio, ça.
Ça s'entend un peu, quand même.
Mais,
après ça, je peux en parler. J'ai des phrases toutes faites, mais.
Non, j'ai envie d'être honnête. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous, en lisant le scénario, vous vous êtes dit, je ne peux pas ne pas faire ce film. Et en même temps, le faire a été, pour vous, une presque.
Je vais vous dire un truc qui résume tout le film.
Un travail psychanalytique.
On tournait en Bretagne, donc j'étais quand même à 900 km de chez moi, et je suis rentré tout le week-end.
Ouais.
Ouais, vous avez eu besoin de revenir, ouais.
Il n'y avait pas de bière là-bas.
Non. Tu verras le verre pour lâcher.
Il fallait retrouver les bases, de la famille.
Je trouve ce film...
Il vous a bouleversé.
Ah oui, vraiment, ouais. Il était très, très difficile à faire, sincèrement. Et je sais bien, enfin je me répète, mais Karine a eu beaucoup de mal avec moi, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. J'ai rarement été au clash, entre guillemets. Souvent, on a arrêté de tourner, s'est disputé.
Est-ce qu'elle savait, François, que le mot papa avait un poids, une dimension chez vous aussi important ?
Non, je pense pas. Elle le sait toujours pas, d'ailleurs.
Elle le sait toujours pas ? Elle devrait regarder vos yeux encore humides à l'idée d'évocation de papa pour comprendre que ça vous touche et ça vous chamboule. En tout cas, ce film, et on parlera d'histoire d'amour parce qu'elle est encore plus compliquée, l'histoire d'amour entre ces deux
femmes.
Mais ce qui est incroyable.
L'émission ne fait comment,
c'est. Et je vous en supplie, croyez-nous, ce qui est incroyable, c'est que la complexité d'en parler, la complexité de l'histoire, d'un coup sera d'une fluidité, d'une simplicité quand vous verrez le film et quand vous l'apprécierez, parce que d'abord, le casting est dingue. Le jeu est juste, la direction d'acteur, la manière dont c'est filmé, tout est formidable, le cadre est intelligent, mais surtout ce que ça évoque. Et chacun ira de son, finalement, de sa sensibilité sur la paternité, sur la maternité, sur les histoires d'amour, sur la famille, sur la place de la famille. Non, mais en tout cas, sur le rapport au mensonge, le rapport au secret aussi. Il y a toujours des secrets dans toutes les familles, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment protéger l'autre, comment l'aimer, bien l'aimer. aimé, mal aimé? Est-ce que l'on peut imposer à quelqu'un sa propre histoire d'amour? Est-ce qu'un père a le droit...
Ça lui a plu, hein.
Est-ce qu'un père a le droit de faire lui-même l'enquête pour que sa fille retrouve son père alors que sa fille dit « je ne veux pas savoir qui est le père de mon enfant ». Tout ça est extrêmement fort, mais surtout, c'est beaucoup plus simple et agréable à voir que nous de l'expliquer, parce qu'on veut évidemment pas tout vous dévoiler sur le film. Toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose et il y a un rebondissement psychologique dans ce drame familial. Il y a des purs moments aussi d'humour et d'amour dans le film. Donc, ne vous arrêtez pas à l'embarras que l'on peut avoir, nous, de poser des questions parce qu'on ne veut pas déflorer le sujet. François Damiens, qui est clairement bouleversé par ce film, pour son histoire personnelle et pour ce que cela touche en lui, allez le voir. Voilà, au témoin d'un doute, c'est le film que vous devez voir pour cette rentrée. Vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous a dit que François venait avec nous.
Oui, et quand je pense à vous, François, forcément, je pense à pas mal de films, mais je pense surtout à un programme qui est devenu culte, et si Internet n'existait pas, je pense qu'on se refilerait des VHS ou des DVD sous le manteau.
Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire?
Non.
Vous arrivez à plein pot là depuis tout en haut, je vous ai vu, hein.
Et puis,
vous n'avez pas fait un virage, pas un planté de bâton, rien du tout. Non, mais vous skiez beaucoup trop vite pour votre niveau. Hein.
Ah oui, je vais prendre moi là.
Vous représentez un danger pour la station. Vous connaissez l'amont et l'aval?
Ouais.
Où est l'amont?
Je sais plus.
Vous êtes belge ou quoi?
Oui.
Ça se voit.
Ce sont vos fameuses caméras cachées. François Lambrouille, vous avez débuté en 2000. Pourquoi ce personnage de François Lambrouille? Si on doit le décrire un peu, c'est un con suprême, en fait, François Lambrouille.
Ouais.
Bah, c'est un homme. Prenez-le bien. Non, suprême, pour elle, c'est un compliment.
Mais c'est un rôle, hein, bien sûr.
Mais oui, non, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir inventé un personnage, en fait. j'ai toujours fait, en fait, ce que j'aimais pas.
À savoir, si on le décrit, ça donne quoi?
Ce qu'on me renvoyait, en fait. Parce que y a rien de pire qu'arriver chez un serrurier quand vous avez perdu votre clé. Et il vous dit, excuse-moi, je ferme dans 5 minutes. Je ne vais pas pouvoir te prendre. Non, je suis désolé. T'es là, mais.
Aide-moi.
Ah, voilà. Et c'est cette espèce d'abus de pouvoir, cette espèce de. Ouais, enfin, de. Le manque de civisme, en fait. Le manque. Moi, j'aime bien les gens gentils, en fait.
Ouais, et puis surtout, il y a des personnes qui ont un minimum d'autorité et qui se régalent à l'exercer en dominant l'autre et qui sont finalement que des faibles qui ont été écrasés toute leur vie. Mais dès l'instant où ils peuvent avoir du pouvoir,
ils en parlent bien. Nagui a un t-shirt et j'ai l'impression
d'être en vacances. Tu veux que j'enlève, c'est ça?
Oui, non, mais j'avais un t-shirt comme toi, mais il est troué, il est fini, il est mort. Mais quel beau bleu, quoi. Et tu le mettrais bien.
Le blanc,
je
ne
sais pas comment il fait, Nagui, pour garder sa ligne, d'ailleurs.
Ah, ouais. Du sport. Continuons par François Damiens, s'il vous plaît.
François Lambrouille, je me disais, c'est une sorte de ramassis comme ça de tous les défauts que vous avez pu rencontrer. Est-ce que ça a été compliqué de tourner ces séquences-là? Parce que vous me donnez l'impression d'être profondément gentil. Donc jouer au con suprême... Non, mais c'est vrai, c'est prendre le risque de blesser, c'est potentiellement prendre le risque de blesser quelqu'un, parce que c'est de l'impro et que vous n'êtes pas à l'abri à un moment de dériver trop.
J'ai toujours essayé d'être moins con que la personne que j'avais en face de moi, ce qui n'était pas toujours évident. mais toujours généreux, toujours gentil et certainement pas dans le jugement, pas dans le. Un peu quoi.
Il y en avait un qui était terrible. Vous avez tatoué, vous étiez tatoueur et les tatouages étaient ratés, étaient effrayants. Et les gens pensaient vraiment que leur peau était défigurée à jamais.
À vie,
foutue, complètement.
À vie.
C'était affreux, mais non, très et drôle.
Puis, aussi, pour revenir à Au témoin d'un doute, il y a aussi, comme dit Leïla...
J'ai même plus de questions.
comme dit Leïla, vous êtes le con par excellence. Sauf que le con, dans son comportement, peut aller mettre le doigt sur quelque chose d'insoupçonné par lui et d'insoupçonnable et qui va blesser la personne. Si par exemple, pour revenir au témoin d'un doute, vous parlez à quelqu'un et que dans un sketch, vous dites bah, « tu sais quoi, retourne voir ton père » et que justement la personne est, comme le personnage du film, en plein doute de qui est mon père, mon vrai père, mon père biologique ou autre, vous pouvez lui dire une phrase qui peut paraître totalement anodine et le foutre totalement en l'air sans même le savoir.
Mais j'ai toujours essayé... quand je tentais l'humour, de jamais faire mal, en fait. Parce que je me rappelle, quand j'étais petit, un jour, j'avais été voir mon père à l'hôpital, et en marchant dans le couloir de l'hôpital, je voyais tous les écrans de télé, parce que les gens, ils s'ennuient à l'hôpital, ou bien ils lisent, ou bien ils regardent la télé. Et justement, il y avait le programme des caméras cachées, c'était il y a 15 ans, qui passait. Et je me suis dit, tu peux pas te permettre de faire une blague qui fait mal, en fait. Parce ouais. que, je veux dire, pour moi, les blagues, ça doit faire du bien, ça peut pas faire mal, on n'est pas là pour faire passer des
ouais,
des...
sauf qu'on rit souvent de situations dramatiques aussi.
Ah bien sûr, il faut toujours partir d'un truc dramatique pour faire rire.
Faut le faire avec bienveillance.
Oui,
en fait,
voilà,
la nuance est là.
Et toujours gentil.
Et votre équipe, justement, un jour, vous a préparé une petite vacherie, on va dire. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Vous avez fait tellement de blagues à tout le monde, vous avez piégé tellement de monde qu'un jour, vous avez été piégé vous-même chez votre dentiste avec la complicité de votre épouse. Vous nous racontez?
Ça m'a pas fait rire.
Racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ils m'ont fait croire, je partais tourner à la montagne, c'était un vendredi, je partais le samedi, ils m'ont fait croire qu'on devait me retirer mes 4 dents de devant. Bon, déjà,
j'en ai
pas beaucoup et elles sont assez écartées. On dit de la dent de la chance, je sais pas. Et mon dentiste les prend sous le doigt et puis il me dit, tu vois, elle ballotte. Et là, il me dit, mais tu mets parfois du vernis ou... Ben, j'ai dit, oui.
Vous déguisez.
Voilà, c'est ça, des trucs jaunes, bruns pour faire rire. Et il me dit, ben, voilà, ça a attaqué ta gencive, bravo. Et parce qu'il faut mettre des produits spécialisés. Enfin, tu ne peux pas mettre
du maquillage
ben, exactement.
Chimique, dangereux.
Et donc je dis, alors quoi? Il me dit, il faut les retirer. Je dis, pourquoi? Parce qu'il me dit, sinon, c'est toutes celles de derrière qui vont partir aussi.
Génial.
Et il m'a fait une piqûre, j'ai laissé faire. En plus, ils avaient mis des caméras au-dessus, dans l'appareil, au-dessus d'une espèce de truc. J'ai voulu me lever, il m'a empêché de me lever. Et puis, à un moment, le caméraman est arrivé, il a dit que c'était une blague.
Enfin, quand même, 4 dents arrachées pour une blague.
Et là, j'ai pété les dents de toute mon équipe.
Voilà, ouais.
Du boulot.
Jamais méchant.
François Damien, c'est à l'affiche avec Cécile de France de ce très bon film, Ôtez-moi d'un doute. Allez le voir, vous allez peut-être même, au-delà de passer un moment agréable en voyant le film, en apprendre sur vous-même aussi. Et ça va vous redonner une autre vision sur l'amour de la famille, l'amour des siens, des enfants, des parents et autres. Enfin, c'est vraiment un film qui fait du bien.
Merci, Nick.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Azaf Avidan avec My Old Pain.
I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every time the weeping willow dances in the breeze, please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago, so honey, don't let go of what you know of me. I am dressed to kill in my old skin, in my old skin. Save me from that same primordial sin that's deep within. Every time the hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago, So honey, don't let go of what you know of me. Take heed of the ocean and the scent of the storm, and whisper the west wind and guide me back home. Again with my old pain, with my old pain.
Bravo. C'était My Old Pain d'Asaf Avidan. Asaf Avidan que vous pouvez retrouver ce soir en concert à 21h en direct sur Inter pour une soirée présentée par Mishka Asayas.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Voici l'humeur de Frédéric Sylvestre.
Alors c'est moins une humeur que j'ai envie de partager avec vous ce matin, les amis, qu'une joie de vivre.
Ah.
Oui, je suis heureux de vous retrouver.
Ouais.
Non, je suis heureux vraiment
Je sens tendu quand même.
Parce que durant ce mois d'août que certains appellent des vacances, mais que moi j'appelle du chômage, j'ai réalisé deux choses. Un, quand je ne vous vois pas, eh ben j'ai plus de mal à payer mon loyer. Et deux, en fait, vous êtes plus que des collègues. Vous êtes une famille. Oui, et je me suis rendu compte face à la vacuité estivale de mon existence que vous étiez un petit peu comme un prépuce. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans, mais c'est toujours gênant quand on vous annonce qu'on va vous l'enlever.
Nagui, c'est pas de quoi tu parles, il a pas compris.
Alors j'ai aussi vu qu'il y avait du changement cette saison. J'ai aussi vu qu'il y avait du changement cette saison. En plein débat sur les travailleurs détachés et le dumping social, on accueille deux Suisses après avoir accueilli un Belge. C'est bien. On est en train de suivre le chemin de l'évasion fiscale de Nagui. Selon toute vraisemblance, le prochain humoriste à rejoindre la bande originale sera panaméen. Et puis il y a mon ami Tanguy Pastureau, mon ancien camarade de France O. France O, Nagui, c'est tout comme France 2 ou Radio France, sauf que les Noirs sont à l'antenne au lieu de garder l'entrée. Tanguy Pastureau.
Je vous ai vu avec Sébastien Follin.
Tanguy Pastureau qui s'inscrit d'ores et déjà dans une logique macronienne, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire ce qu'il faisait à RTL, mais pour moins d'argent. C'est-à-dire qu'à France Inter, on a pas mal d'humoristes donneurs de leçons, c'est la première fois qu'on en a un qui les met en application. Bref, comme je le répète, même si ma joie est immense d'être en votre compagnie, depuis le début de cette émission, en revanche, je dois vous l'avouer, je suis un petit peu choqué. Ah. Oui, je préfère vous le dire, cette année, je ferai dans l'outrance, voire l'ultra-violence.
Ben, ça a commencé déjà.
Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, non, et zut. Voilà. Hein, depuis 20 minutes...
Ah ouais, c'est violent.
C'est violent, mais c'est, vous me faites sortir de ma modération. Ouais, depuis 20 minutes, je vous entends, et cela même si vous n'avez rien dit en ce sens, et ça n'est rien de moins qu'un procès qui est en train d'être fait. Le procès de la modernité. On est là, autour de cette table, en train de dire « Oui, La Fontaine était un grand poète et que ses écrits devaient être relus. Oh là là, prise de risque !» Déjà qu'hier, on a appris que Mozart avait le sens du rythme. Là, on est là, en train de vanter les mérites de la lecture, ce qui sous-entend, comme l'a bien compris cette fidèle troupe de 12 jeunes auditeurs qui nous écoutent, « Vive les livres classiques à base d'arbres abattus, à bas les tablettes qui donnent de l'emploi à la jeunesse du tiers-monde. Dans deux minutes, c'est le retour des uniformes à l'école. Que dis-je de l'uniforme tout court ?» Je vous le dis parce que je vous aime, Nagui. J'ai l'impression qu'on fait une émission pétainiste. Alors fondamentalement, ça ne me dérange pas. Hein, comme me le disait encore Daniel Morin ce matin, le secret pour travailler longtemps à France Inter, c'est de n'avoir strictement aucune conviction. Mais l'école du 21e siècle, je suis désolé, mais c'est plus les fables de La Fontaine. C'est par exemple étudier trop vite le livre de Nabila. C'est comprendre la sémantique dans une chanson de PNL. Tout ça sur les iPads avec un prof torse nu qui écrit au tableau en langage SMS comme dans Les Anges de la télé-réalité. Alors vous allez me dire, mais les écrans sont dangereux pour les jeunes enfants, Frédéric. Les prêtres pédophiles aussi, c'est pas pour ça que les gens ne mettent plus leurs enfants dans le privé. Et puis la culture, excusez-moi, mais c'est très surfait et c'est pas autour de cette table qu'on va me contredire. Mais oui, Leïla, tu en es la preuve vivante. T'as fait des études pour nous tous réunis. Et pourtant, tous les week-ends au JT, tu lis un prompteur qui n'est rien d'autre qu'une tablette géante. Maîtriser le grec et le latin pour terminer assise à côté d'Albert Albou qui fait des blagues sur les femmes fontaines. Pardonne-moi. Mais la culture, elle a pris cher. En plus, j'ai regardé les postes à pourvoir. J'ai regardé les postes à pourvoir sur le site de Pôle emploi. J'ai vu carreleur, serveur, plombier, mais nulle part j'ai vu poète. Hein. Notre pays a besoin de bras pour se redresser économiquement, pas de cerveau. C'est devenu un acte patriotique de ne pas se cultiver, de ne pas faire d'études. Et j'irai même plus loin. Vous remarquerez que celles et ceux qui redoutent la destruction du code du travail sont ceux qui l'ont lu. Sans lecture, plus de flexibilité, plus d'emploi, plus de croissance et donc plus de bonheur. Donc, monsieur Orsena, si vous aimez un tant soit peu votre pays et les générations futures, si vous voulez lutter contre le chômage, la prochaine fois, écrivez un livre sur Booba.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Dans la bande originale d'Éric Orsena, qui est notre invité, qui signe La Fontaine, une école buissonnière chez Stock et aux éditions France Inter. En 1947, par exemple, vous écoutiez Paco de Lucía. Tico, tico. C'est Dalida qui l'avait reprise.
Oui, attends, avec un truc.
Ouais. Bon, là, c'est instrumental, hein.
Carmen Miranda a chanté ça aussi.
Ouais, c'est vachement bien, ouais. Ça vous plaît, vous avez le démon dans le corps, hein. Vous ondulez de tout. Ah oui.
Son corps est une liane.
Tico, ouais. Tico, vous arrivez dans une... Vous naissez dans une famille à Paris, dans une famille que vous qualifiez de d'étonnante, enfin qui éveille la curiosité, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez grandi avec cet amour de tout découvrir, d'être curieux de tout?
Oui, et des parents qui adoraient la chanson, alors la musique, un instrumental comme ça, et puis c'était Léo Ferré, et ils nous emmenaient, mon frère et moi, on avait 10 ans dans les cabarets, où on a vu donc très 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 tôt...
Chez la Gouinec, vous aimiez?
Oui, c'est comme ça, là, avec votre petite camionnette, et donc, non, mais on allait voir tout, c'est-à-dire Brassens, Ferré, etc.
Il n'y a pas que la musique, votre maman était une amoureuse des livres aussi, et de la lecture.
Oui, elle était monarchiste, donc elle nous racontait des histoires de rois, de reines, en disant que la République, c'était quand même complètement nul.
Et
déjà, mais elle, avant de sombrer un peu dans un monde à elle, elle avait une admiration pour vous, Père Algou. Je voulais vous le dire, vous avez manqué une occasion, Père Algou.
Et déjà, tout jeune, Éric Orsena, vous étiez passionné par la lecture et aussi par les femmes.
Oui.
Il manquait un peu de femmes dans Tintin, je crois.
D'abord dans Tintin, où elles sont pas formidables, et surtout que ma sœur est arrivée bien après.
Il y a que la Cassafiore.
Non, c'était un castrat.
Les écoles n'étaient pas mixtes.
D'accord.
Donc quand on était intéressé par les dames, par cette grâce qui passe et tout ça, et puis cette intelligence qui vous démontre, et donc c'est pour ça qu'à 11 ans, j'ai demandé comme cadeau de Noël d'être abonné au journal Elle. Ce qu'on a fait. Donc j'étais, je crois, le plus jeune abonné à Elle.
Et après, ça a été à lui.
Et donc, non. Non.
Il a fait tous les pronoms.
Non.
Après, il y a eu
exactement.
Nous.
Donc vous voyez que j'étais déjà dans la grammaire.
Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est votre rapport aux mots, en fait, Éric Orsena, parce que c'est pas juste un intérêt d'un petit garçon, c'est cette envie d'être aimé par les mots.
On l'avait fait, la psychologie. Mais,
nous parlons devant un psychiatre, mais j'ai toujours eu un sentiment de, je sais pas, d'avoir des joues trop rondes et tout ça, donc je me trouvais pas formidable. Et donc, je pensais que les mots seraient ma revanche. Et j'ai retrouvé, il y a très peu de temps, une phrase formidable de Leonard Cohen qui dit « Nous sommes laids, mais nous avons la musique ». Et c'est une phrase merveilleuse de Leonard Cohen.
Parce que vous pensez que la musique est plus facile, est un outil de séduction plus efficace que la littérature, l'écriture ou la poésie.
Demandez au président Lernac, il va vous dire ça.
Non, mais c'est à vous que je demande. Alors que La Fontaine, comme vous l'écrivez notamment avec ses contes, cherchait à séduire une manière de draguer pour lui d'écrire ses contes.
Oui, sauf que La Fontaine, il voulait draguer tout le temps, donc il avait commencé par le théâtre. Parce que le théâtre, vous êtes en relation plus directe, et puis il y a les actrices. Alors que vous écrivez le livre, et puis on peut vous lire, mais on peut vous lire très loin, donc il n'y a pas une relation directe.
Et ça n'a pas marché très fort.
Alors que, il y allait.
Je parle du théâtre, pas du tout.
L'opéra, pas du tout. Et les musiciens, ils sont là, tout le monde va autour des musiciens. Et puis, il y a une sorte de fluidité. Moi, je vous dis très franchement, au sommet de tout, les arts, il y a la musique. Vraiment. Je reviens là du festival merveilleux de William Christie à Thiéré, en Vendée, et ce que j'ai vu, c'était merveilleux. Merveilleux. Vraiment, on est là, ça a épousé. La musique est comme l'eau. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant dans les fables de La Fontaine. La Fontaine, donc, tout ça flue. Et donc, son style est un style qui flue comme l'eau. Qui est à la fois des variations de rythme, qui enchaînent les métamorphoses exactement comme la musique.
Il y a aussi une musique quand on écrit.
Il y a une musique.
Est-ce que vous lisez à haute voix ce que vous écrivez pour que musique...
Ce que j'écris moi, non, mais La Fontaine, oui.
Il y a des auteurs qui écrivent.
Oui, tout à fait.
Qui se relisent à haute voix.
Mais regardez, j'ai eu cette chance formidable de faire un petit spectacle avec des musiciens merveilleux des arts florissants où ils jouaient en instrumental. Il chantait et je lisais. Et il y avait une formidable, écho entre la parole dite, la parole chantée et l'instrumental sans parole. Et tout ça échangeait comme ça, sans frontières.
Mais pardon, je voudrais revenir sur la musicalité de l'écriture.
Oui.
Dans le choix des mots, dans le choix du rythme d'une phrase, de sa longueur, de sa structure, c'est
tout.
Musique.
C'est à la fois de la marqueterie, c'est-à-dire on bouge les mots, et de la musique. Et je me souviens d'une phrase toujours qui m'est arrivée lors du deuxième roman publié que j'ai fait, qui résumait un peu ce que je pensais. Sans musique, la vie rappe. Et alors après on peut changer le rap, etc. Mais c'est vraiment ces vrais sentiments-là. Donc c'est vrai que chaque mot écrit est dit. Et que quand, vous savez, une phrase elle est juste comme une mélodie, comme une note. Il y a un mot, il n'est pas juste.
Mais autrement dit, quand vous écrivez une phrase, est-ce que vous allez choisir un mot parce qu'il sonne bien, parce que...
Non, parce qu'il doit être juste.
Dans son sens.
Plus, mais c'est les deux en même temps. C'est ça qui est, c'est ce miracle incroyable de voir que, enfin, vous savez ça, le beau et le vrai, c'est pareil. C'est très étonnant, mais c'est pareil. On arrive à un moment donné, clac, c'est bien, et à côté, c'est pas bien. À demi-ton, c'est pas bien. Et on triche et on entend immédiatement. Alors moi, je n'ai pas du tout l'oreille absolue, mais c'est vrai que depuis le temps que j'écris, depuis 60 ans que j'écris tous les jours, c'est vrai qu'il y a des phrases qui vont pas, où il y a des noms d'auteurs, de personnages qui sont faux. Une des preuves formidables du génie de Modiano, c'est le nom de ses personnages. Et quand j'étais éditeur, je savais que quelqu'un n'était pas un écrivain parce qu'il se trompait dans les noms des personnages. C'était faux. Comme en musique, c'est faux. Et donc j'adore ça, moi. C'est pour ça que c'est mon regret absolu, la musique, et mon admiration totale.
1974, vous signez votre premier roman et vous écoutiez...
Le téléphone
Tu as bon goût.
On va essayer de se rattraper.
Oui. Meurt dans l'écouteur et le téléphone pleure.
Claude François, le téléphone pleure.
C'est le téléphone et l'enfant, c'est une fable.
Et l'enfant. Et c'est l'enfant.
Alors dis-moi pourquoi.
Mon Dieu.
Ah, c'est le monsieur qui appelle et que maman va jamais mettre en main. Et maman est dans son bain, mais pourquoi tu n'es pas dans le bain avec la maman?
Ah non, moi j'ai vu ça.
Bon, ça c'était en
74. Jean-Luc Lahaye, le petit garçon.
En 74. Vous écrivez votre premier roman et vous choisissez...
Je ne mettrai pas Jean-Luc Lahaye et Pierre sont dans la même phrase.
Et vous choisissez un pseudonyme.
Oui.
Décidez de ne pas garder votre nom d'état civil. Vous prenez Orsena, qui est le nom d'une petite ville, c'est ça?
D'une ville de...
Julien Gracq.
Voilà, dans le Julien Gracq. Donc j'écris à Julien... Pourquoi je prends un pseudonyme? Parce que j'étais en train de...
Au départ, vous appelez Eric Hitler quand même.
Oui, oui. Exactement. Fon, s'il vous plaît, parce que c'est une noblesse d'empire.
C'était dans Rivage et Sirte.
Et le Rivage des Sirte, ça appartient à l'une des vieilles familles d'Orsena. Et comme je soutenais ma thèse d'économie, donc j'ai préféré avoir un autre nom. Donc j'écris à Gracq, qui immédiatement lui en demanda la permission. Et il envoie un petit mot, comme à chaque fois, une magnifique politesse, et en disant, on va voir ce que va devenir ma ville. Donc là, et puis, j'ai mis 20 ans à oser aller le voir. Et les dernières années de sa vie, je crois qu'on est devenu très proches, et on a beaucoup parlé là où il habitait, à Saint-Florent-le-Vieil.
C'est Raymond Barre qui vous a...
Qui était le président de mon jury de thèse.
Vous prendre un pseudo, pourquoi? Parce que Arnoux, ça ne lui plaisait pas?
Parce qu'il disait, comme ça, vous aurez deux vies. Et il pensait pas que j'en aurais beaucoup d'autres. Mais c'est vrai, il avait tout deviné. Et j'aimais beaucoup Barre.
Et il faut qu'un nom sonne aussi comme un nom de personnage. Donc j'imagine qu'Éric Orsena, c'est plus...
Ça sonnait plus juste.
Orsena,
enfin, ça fait mafieux Corse, quand même.
Oui, ça fait un peu, mais c'était mafieux, assez... C'est un peu... Donc quand je vais en Corse, je dis Orsena.
et quand vous demandez l'autorisation à Julien Gracq, c'est une façon d'entrer en contact avec
Évidemment.
Lui, parce que vous pourriez très bien prendre ce nom sans lui demander.
Oui, mais... D'abord, j'ai été bien élevé. Mmh. Et ensuite, évidemment, comme je suis à la fois bien élevé et filou, ce qui n'est pas toujours contradictoire, je lui demande un peu. Et comme ça, mais j'ai attendu longtemps parce que la timidité était là. Ouais. Et vous savez, la première fois où je vois Julien Gracq, après 20 ans, et il dit, vous prendrez bien un peu de Porto, monsieur Orsena, il rougit autant que moi. Parce qu'il se disait, tiens, c'est quand même étrange. J'invente ce nom de ville à partir d'un dieu étrusque qui s'appelait Porsena, qui n'était pas formidable. Ouais. Il coupe le P et il met Orsena. Et il dit, tiens, il est déjà assez vieux et complètement chauve, mais il a l'air de bouger encore.
Pour en revenir sur Claude François, et tout à l'heure vous évoquiez les musiques de Brel, de Traîné, de Léo Ferré. Claude François a toujours été pointé du doigt comme étant de la variété française à paillettes, avec évidemment les Claudettes, et tombé dans la facilité de la variété ou de la chanson populaire, oui. Mais qu'un académicien dise « j'aime la chanson populaire », on peut être surpris, parce que vous pourriez jouer de l'image en disant « je n'aime que les chansons à texte, bien écrits, les poètes,
tout.
Maudits ».
La variété. Quel plus beau mot que la variété. On défend la biodiversité. Moi, je suis pour la bio-variété. C'est pareil. La bio-variété. Et franchement, tout le monde me demande si j'ai pleuré, si je pleure encore pour toi. S'il me le demande, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Alors je mens un petit peu et je dis fièrement « je n'ai jamais pleuré de ma vie ». C'est tout juste si les yeux me picotent un peu. Enfin, je peux vous le chanter, hein.
C'est comme une fable de La Fontaine. C'est comme une fable de La Fontaine, tout d'un
coup. Non, c'est beau. Et regardez, quand on chantait ça, ça fait 40 ans après, et le public chante encore. Ça veut dire que c'est notre patrimoine. Mm-hmm. Vraiment, la vie est un grand karaoké. Les musiques nous accompagnent, les chansons nous accompagnent.
Dites pas ça, il va se lever la l'égyptien.
Chansons nous accompagnent.
Voilà. On va faire un N'oubliez pas les paroles avec les Corsena.
Ça, allez voir. C'est signé. Faites gaffe, parce que j'ai de la mémoire.
En 80.
Des paroles.
18... Faites gaffe, moi aussi j'en ai, parce que si vous dites que vous venez, je vous attends.
Non, tu vas voir.
1998, vous écoutiez Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Vous aimez danser en plus de chanter aussi, hein.
Oui, et puis il faudra continuer parce qu'après il y a illégal. C'est immigrant illégal. Et tout ça, c'est masse. Enfin, c'est impossible de rester sur sa chaise.
Ah si, Daniel.
Si, mais Daniel,
oui, mais ça, c'est le poids qui fait
Daniel,
c'est
pas, c'est un fauteuil roulant, s'il vous plaît. Arrêtez de vous moquer de moi, ça fait 13 ans que je ne me suis pas levé. J'ai droit à ma différence.
Il va arriver.
1998, et vous écoutiez donc Manu Chao, clandestino. Quelle est la place de la musique à la maison? Vous l'écoutez tous les matins en vous réveillant? Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que lorsque vous cherchez des idées ou vous rentrez dans un personnage, la musique peut aussi vous aider, qu'elle soit classique, qu'elle soit de variété, qu'elle soit instrumentale ou à texte?
La musique, c'est l'amorce et la récompense. Mais jamais écrire en musique, parce qu'il y a une concurrence. Et comme on disait tout à l'heure, j'essaye qu'il y ait petite ressemblance avec la musique. Donc, ça lance. Et puis après, quand j'ai... Voilà, je
suis... Il faut le silence pour écrire.
Personnalité un peu morale, quand même, en disant, j'aime des récompenses. Et puis, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'en ai eu marre d'être tellement dehors du monde de la musique, dont j'ai commencé le piano, j'avais jamais rien fait de ma vie. Et donc, je fais du piano, je suis totalement nul, mais réjoui.
1998, c'est également l'Académie française.
Et Leïla. Oui, et là, vous accédez accéder à ce deuxième Graal de votre vie.
Au 17e fauteuil.
Au 17e Encore fauteuil, 17. Celui qui était occupé par Jacques-Yves Cousteau. Qu'est-ce qui se passe encore dans votre vie à ce moment-là? On se dit quoi?
On se dit que quelque chose est arrivé plus tôt, c'est-à-dire ça aurait pu arriver bien plus tard, parce que j'ai 51 ans à ce moment-là.
Vous êtes jeune.
Donc je suis jeune. Et donc, et puis, il s'est passé une scène juste après, parce qu'on laisse un an pour faire le discours, donc on force pas l'allure. Et j'ai eu cette chance immense, rarissime, de pouvoir dire merci à mes deux parents vivants qui étaient juste en bas.
Oui.
Et donc, merci papa qui m'avait donné toutes ces histoires d'océan, de pirates, de choses comme ça. Merci maman qui m'avait vraiment appris la langue française. Et donc,
c'est pas un peu court comme discours
oui, c'était bref. Mais comme la suite de Cousteau, c'était le monde du silence, donc c'était déjà long.
Un hommage.
Mais c'est quand même rare de se faire accompagner à l'EHPAD par ses parents.
Oui. Regarde, la vie éternelle. Je vais attendre le père, parce que quand après Maréchal, il va devenir religieux. Et attention, parce que j'ai été élevé chez les eudistes. Et alors, tu vas voir mon père.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter. Voici Julien Doré à Porto Vecchio.
J'ai le spleen, ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Porto Vecchio. Immortel assassin, te voilà sorti des flots. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. J'ai oublié ton nom et ton corps. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. Je souris au venin qui me brûlait le dos. Je pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour me tourner la page. Je reviendrai demain sur le Porto Vecchio. Oublie ta main et le goût de ta peau.
Porto Vecchio, c'était Julien Doré sur Inter dans la bande originale.
France Inter, la bande originale, le best-of avec Nagui.
Voici la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. On commence par Leïla pour Eric Orsena.
Eric, le dernier livre que vous n'avez pas réussi à finir.
L'annuaire.
Non,
il y a un très gros livre que je suis en train de continuer à lire avec émerveillement, de Michel Lebris, s'appelle Kong. C'est toute l'histoire du film King Kong. Ça fait 1000 pages, j'en suis à la page 600, et je suis comme un fou pour continuer.
Mais un livre que vous n'avez jamais fini.
Par déplaisir, tu veux dire.
Oui, parce que moi je trouve que c'est le droit du lecteur.
Tout à fait, mais j'ai un tempérament heureux, grâce à des années de psychanalyse. Quand j'ai du malheur, j'oublie. J'y pense. Plus et j'oublie, comme dit mon maître Claude François. Et donc, je ne me souviens plus du livre que je n'ai pas eu envie de continuer.
D'accord.
Frédéric Sérist.
Qui autour de cette table fera un très bon académicien?
Leïla.
Daniel Morin.
Bisous.
Je voulais vous demander, très honnêtement, Eric, vous trouvez qu'il s'en tire comment au niveau du français, Nagui?
Pas mal. Nagui, il donne envie. Ouais.
Et je préfère,
je préfère ceux qui donnent envie plutôt que les fabricants de verrous.
Le meilleur de la bande originale, ça continue jusqu'à 12h30 avec Manu Payet, le live d'Azaf Avidan, mais tout de suite sur Inter, les infos. Merci Alexis, l'info revient à 13h évidemment avec le journal et vous serez là toute l'après-midi pour nous informer. Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kado Boudadi, Daniel Morin, Frédéric Sigris, Tanguy Pasturo et nos invités Manu Payet et en live Azaf Avidan. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est maintenant.
Quel talent!
Bonjour. Emmanuel, bonjour Manu. Emmanuel, ça se passera au théâtre de François-Xavier de Maison, le théâtre de l'œuvre.
Tout à fait.
Qui va être rebaptisé le théâtre de François-Xavier de Maison. Tellement c'est trop la classe,
il y a une simplicité. Et le bar aussi de François-Xavier de Maison.
Avec ses produits du terroir, avec lesquels nous nous sommes déjà régalés chaque fois qu'on est allé au théâtre de l'œuvre. À Paris du 4 octobre au 31 décembre. C'est-à-dire, vous allez faire Noël, vous allez faire le réveillon là-bas, vous avez plus de vie privée, quoi. C'est fini, c'est mort.
Ah, c'est fini. Ça y est, je m'installe.
Quand on voit le spectacle, on se rend compte que la vie privée, c'est
compliqué.
Pas non plus. Voilà, c'est pas simple.
Bah déjà, quand on voit l'affiche.
Avec de très belles jambes épilées, avec un bah corps.
Ces jambes sont magnifiques.
Un corps de rêve. Oui, aucun trucage, magnifique. Évidemment, n'a été fait, ni aucun animal n'a été abîmé pour cette pochette. Le clin d'œil, évidemment, étant fait au film Emmanuel, tout part de votre prénom. Ce prénom, vous dites que plus personne. Enfin, sauf que maintenant, il y a un retour à la mode. J'imagine quand vous avez écrit le spectacle, vous ne saviez pas encore qu'il serait présidentiel, ce prénom.
Non, mais j'espérais. Après, j'écrivais aussi pendant les campagnes des uns et des autres, pendant la campagne présidentielle, et j'espérais que le gars, que le Manu, allait nous faire redevenir un hashtag.
Parce que le spectacle Jean-Luc, c'était pas...
Non.
Ou Jean-Marie.
Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Mais c'est vrai que votre prénom Jean-Louis. Est Emmanuel. Vous ont plaisanté en disant mais Manu maintenant c'est plus à la mode, plus personne ne s'appelle Manu. Puis il y a des prénoms comme ça qui disparaissent. Les Thierry prennent cher d'ailleurs.
Les Thierry prennent cher. Oui, mais les Thierry font partie des gars qui portent encore ce drapeau. Nous existons.
Il y avait Thierry Lhermitte, c'est sympa pour lui qui était là l'autre jour.
Non, mais il dit que c'est un problème de génération.
Et Véronique, c'est à pleurer de rire.
Ouais. Mais regardez, les Arthur, c'était ringard il y a 30 ans.
Et ça l'est encore aujourd'hui, c'est vrai.
Il y en a plus que jamais.
Sauf que Véronique, Véronique dans un berceau, c'est étonnant. Quoi. Un bébé qui s'appelle Véronique.
On n'est pas obligé d'aimer ses enfants. Hein.
Non mais c'est vrai, la mode des prénoms.
Leïla par exemple.
C'est le point.
C'est hyper à la mode.
C'est le début de votre spectacle. Vous avez souffert de votre prénom étant gamin ou pas du tout? Et pourquoi vous en amusez aujourd'hui?
Je m'en amuse aujourd'hui parce que vraiment Manu, je trouve que ça fait vraiment fumeur de clope sur le retour avec un perf et un mec qui écoutait Nirvana. Et puis...
C'est générationnel, c'est ça?
Qui se fait consoler par les chansons de Renaud quand il se fait larguer, ouais.
Les vannes que vous avez essuyées, genre Manu, tu descends.
Ouais, Manu, tu descends. Pourquoi faire, c'est ton destin. Manu, ciao.
Les inconnus, ouais.
Et puis une fois, j'étais dans une boîte à Lyon et il y a une fille qui manifestement beaucoup plus jeune que moi. Il me dit, je te connais. Comment tu t'appelles déjà? Et je lui dis, bon, il y avait de la zik, tout ça. Je lui dis, Manu. Et franchement, j'ai eu l'impression de m'appeler Chunkawar et qu'elle m'a regardé comme si Janu. Non, Manu, comme beaucoup de gens, hein, quand
comme
même.
Manu.
Hein. Jamais entendu. Elle n'avait jamais entendu le truc. J'ai pris mes affaires, je suis parti.
Mais vu comme vous l'avez fait, il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas dû entendre, à mon avis.
Elle dansait trop près des enceintes.
Elle était très jeune, donc.
Très jeune, et je suis rentré déprimé dans ma chambre. Je me suis dit, bon, il faut appeler le spectacle Emmanuel.
Manu, avec ce spectacle qui s'appelle Emmanuel, qui joue sur les prénoms en ouverture, mais on voit bien le côté intime. C'est un stand-up. Vous êtes seul en scène pendant plus d'une heure et demie, pratiquement deux heures. J'imagine aussi que, en fonction des salles, en fonction des réactions, de ce qui s'y passe, peut-être même des commentaires, parce qu'il y a toujours un malin qui essaye d'intervenir ou d'interrompre ou de réagir. Non, vous jouez beaucoup avec le public.
Oui, je joue beaucoup avec le public, mais je joue surtout
pour
le public.
C'est troublant quand les gens veulent rentrer en jeu.
Oui, parfois c'est troublant, ouais. Il arrive que ce soit un peu... Non, mais parfois, c'est souvent un gars qui est content que t'arrives, quoi, tu vois. Donc, il dit « Yeah !» mais tu comprends pas.
C'est une bonne réplique. Oui.
J'ai rien compris à cette phrase.
Mais c'est ça, parce qu'il est loin, il est au fond de la salle et parfois il parle pas assez fort, il n'a pas de micro et donc tu comprends pas. Donc il y a ce petit moment de j'ai pas compris, excuse-moi. Ah, eh. Et puis voilà, ça interrompt un peu le truc, mais ça c'est de la joie.
Et il y a la danse, parce que vous passez beaucoup de musique quand même dans le spectacle. Dans The Weeknd. Vous dansez même sur Beyoncé.
Allez.
Surtout les filles. En vous moquant des filles qui ont la chorégraphie de Beyoncé.
Oui.
Mais là, vous avez travaillé avec un chorégraphe ou c'est Benjamin Gage qui vous met en scène et qui vous conseille ce qu'il faut faire ou pas?
Pas du tout, il danse jamais. Non, c'est moi. Non, c'est pour ça que je dis que j'aime bien, je préfère plutôt que d'aller en boîte, sortir, aller chez les copains, chez les uns les autres. Faire des dîners entre nous parce que voilà, je sais comment ça va déraper, on est la même bande de copains depuis longtemps et que il y a plus de jugement, on se rentre pas, t'es pas obligé de rentrer le bide, c'est cool, tu peux te lever et danser et tu peux mettre la musique que tu veux, t'es pas obligé d'aller négocier un gars qui se prend pour le roi du son.
Et puis il y a l'outing quand même dans ce spectacle, on peut pas passer à côté de la déclaration que vous faites. Vous dites que si Justin Timberlake vient vous voir et vous dit mollo.
Non, je dis juste allez, que si, je dis juste qu'un jour on a dû se poser la question de qui, s'il fallait une gay option genre obligatoire, si ça pouvait sauver la vie de gens, voilà, et qu'il fallait que tu fasses un mec.
Pourquoi forcément sauver la vie des gens?
Non, mais c'est pas
quelque chose
plus.
Non, mais quelque chose d'utile.
Non, mais quelque chose
d'utile. Un alibi. Sauver la soirée, quoi.
Ou sauver la soirée.
Voilà, ça va.
Ou juste faire plaisir à un copain.
Et ben voilà.
Voilà. Ce que m'a demandé Nagui la dernière fois.
Mais pour vous, c'est le.
Et donc, moi, j'ai réfléchi à une gay option si j'étais obligé d'avoir un rapport avec un mec.
C'est Justin Timberlake.
Et je me suis dit, mais attends, mais c'est évident que c'est Justin Timberlake. Ai-je vraiment besoin d'avoir une gay option pour que ce soit un jour, pourquoi pas, Justin Timberlake.
Non, mais pour que lui vienne vous demander, il faut vraiment qu'il soit au fond du... Alors,
c'est clair. L'image.
Ou perdu, c'est ça.
Un malentendu,
C'est son option à lui.
Des regards qui se croisent, voilà.
La beauté intérieure. Vous,
ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois, que je dis que c'est Justin...
Ça réagit dans la salle.
Il y en a toujours, j'entends toujours une voix de mec, mais vraiment. Il fait ah ouais. Qui finit par valider. Ouais. Bon, ça, si c'est Justin, deux. Je suis là après toi.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Voici l'heure de Tanguy Pastureau sur Inter. Ça fait pratiquement pile un mois, Tanguy, que vous êtes avec nous.
Oui, déjà un mois que j'essaye de me repérer dans les couloirs de Radio France et bientôt j'espère le faire sans GPS. Un mois que je vous fréquente, Nagui, vous dont j'ai regardé la photo pendant 30 ans dans Télé 7 jours. En fait, ça ne fait qu'un mois que je vous vois sans être aux toilettes. Un mois qui est passé aussi vite qu'une période de 30 jours et qui m'a permis d'arriver à la conclusion suivante. Je suis dans une maison de fous. À côté, la vie de Samina Seri, c'est un modèle d'équilibre. Exemple hier, la presse révélait qu'à Radio France, des pigiste, caste la moins élevée dans le monde du journalisme, l'équivalent des intouchables en Inde ou des hétéros dans le showbiz, avait passé une sélection pour entrer sur le planning. Alors le planning, ça veut dire qu'on peut bosser pour toutes les stations, en Isère, en PACA, à Lille. On a la vie de Nabila quand elle fait la tournée des boîtes avec son spectacle collagène, raide effet, c'est mucho das, mais sans le salaire. Ensuite, ça peut déboucher sur un CDD au bout de 34 ans de planning. Bref, le journalisme est une impasse. Moi, je sors trois vannes, il y a Nagui qui se propose de m'adopter. Mais le jeune qui veut un CDI de journaliste a autant de chances de l'avoir que le pape François la mononucléose. La vie est une chienne. Seulement, le fichier de résultats des entretiens a été rendu public par erreur. Les Russes ont dû hacker le bazar.
Bien sûr.
Et les annotations du jury sont apparues. Or, on y lit à propos d'un candidat, il s'écoute trop et raconte des conneries, ou bien a une voix de crécelle, ou encore serait pas mal en DJ au Macumba. Bref, ici, c'est un repère de punk. À côté de Joe Star, ces petits ours bruns qui apprend la vie en se trempant le sexe dans du miel. Radio France, c'est le seul groupe où on se dit toute la vérité. Vous croisez un collègue dans le couloir, il vous dit « Je viens de t'écouter, dis donc c'était nul, tu vas pas la déclarer celle-là à la SACEM. » Ici, c'est le seul lieu où le type qui sort des WC vous dit « L'état de la pièce ? Oui, c'est moi. J'ai mangé chilien hier, mais je m'en tape parce qu'ici, c'est pas ma maison. Allez, journée pourrie !» C'est l'équivalent de bonne journée ailleurs.
Alors, Laurence Bloch, notre directrice de France Inter, est très directe. Oui, ça, vous le savez.
Bah oui, hier, Laurence Bloch, cette dame qui a dit récemment à propos de moi que que j'étais formidable et très drôle. Puis ensuite, je me suis réveillé à accorder un entretien à Télérama, le journal des profs et des 14 derniers fans de Björk. Et là, on lui demande, et le départ de Patrick Cohen, comment l'avez-vous vécu? Donc là, tout boss dirait, nickel, regarde mon pote, il est plus là, mais on a deux Morand et Salamé. J'en perds un, j'en récupère deux. Et si les deux se barrent, à la place, je mets les Stones, ils sont quatre. Yeah, on est au top! Mais elle, Radio France, vérité. Elle dit, non, j'ai tout fait pour le garder, j'ai échoué. Hein, forcément, au bout du fil, l'autre avait Lagardère qui lui disait, Pat, fini l'autobronzant, tes bajoux, tu vas aller les griller à Punta Cana en jet dès que t'as deux heures de RTT, parce que ton contrat, les autres gens, ils appellent ça cagnotte de l'euro-million. Donc à un moment, Laurence Bloch dit même, au départ, quand il faisait des chroniques, Guillaume Meurice était nul. Hein, vous imaginez ça ailleurs, quoi, le boss de RMC qui dit, Bourdin, il est sympa, mais il se douche la veille pour le matin, alors dans le studio, ça pue le renard. Et Maïté Nabiraben, bah, elle était à Pôle emploi, on l'a eu pour 900 euros par mois, nickel. Donc il y a qu'ici qu'on dit la vérité. Et heureusement, si à Fessenheim, le boss d'EDF en direct sur BFM se mettait à dire, quoi, j'ai quatre bras? Bah ouais, mon pote, ça fait 10 ans qu'on répare la centrale avec de la colle à bois. Mais ce serait la panique. Hein, ou Macron à l'Elysée qui dirait, salut les ringards, voilà, les ordonnances c'est signé. Pardon de vous le dire, mais vous l'avez dans le cul. Hein, maintenant, je vous laisse. Je vais appeler ce crétin de Trump pour lui dire qu'il est peigné comme une aisselle de viking. Mais ce serait un scandale. Il y a qu'ici qu'on dit la vérité. Donc Manu, ainsi Nagui vous dit, bon, maintenant, mon coco, tu te bouges et tu donnes envie aux gens d'aller le voir, ton spectacle, fous-toi à pâle, y a des webcams. Ce n'est rien, c'est juste qu'on est à Radio France, on est des oufs, des déglingos, on dit tout. Nagui prétend qu'il est végétarien, mais en fait, il bouffe des steaks, voilà. Radio France s'est excusé, mais est-ce qu'on s'excuse pour les transports, la transparence? Allez, passez tous une journée pourrie.
Merci. Sur France Inter.
Je vais pas commencer à démentir parce qu'après il va falloir tout vérifier si tout était vrai ou tout était faux dans le papier.
Et c'est quoi cette arnaque que t'es végétarien?
Très compliqué. Ouais, je suis végétarien et alors?
Meilleure vanne de la journée.
Manu Payet, justement, sur scène, est-ce qu'il faut une hygiène de vie, puisqu'on parle de ça, tiens, est-ce qu'il faut s'entraîner? Est-ce que vous êtes demandé si...
Se laver?
Si justement... Non. Le bide, et est-ce qu'il fallait être plus maigre, plus en forme?
Oui, c'est toujours mieux de passer au boulgour quand tu t'attaques à 3 mois de théâtre, mais c'est chiant.
Donc vous l'avez
moi,
fait.
Moi, ça m'emmerde. Franchement, je le fais, allez, vas-y, je vais deux fois par semaine, je vais chez Cogent. Ça me déculpabilise de...
tu vois, je prends... Ça marche pas.
Mais oui, non. Voilà, c'est pas assez en fait. Je suis pas assez assidu. Mais j'ai repris le sport quand même pour le théâtre. J'ai repris le sport.
C'est quoi le sport pour vous?
Du sport. Un gars, il me dit ce qu'il faut que je fasse et je suis chiant à
faire. Coach?
Oui, un coach, voilà. Je fais des pompes, des trucs. Trucs chiants, quoi.
Vous n'êtes pas un sportif dans l'âme?
Ah, non. Pas du tout.
Pas du tout.
Bah, je serais pas ce gars-là. Le spectacle n'a rien à voir.
Et même autour de la voix, on sent qu'il n'a pas envie d'y aller.
Non, mais c'est. Non, pas du tout.
Ouais. Ah, sportif et humoriste en général, ouais, je trouve que ça va pas.
Mais s'il y en a de plus en plus maintenant. Les
ouais,
petits,
mais c'est dommage.
Plus, ouais, ouais. Ah,
ils ont ouvert un truc.
Tu remarqueras, ils sont pas drôles.
On parlait de Gad Elmaleh tout à l'heure, qui est un brillant danseur aussi. Il s'entretient physiquement et il est affûté.
Oui, mais parce qu'il a compris et accepté un truc. Il s'est dit, bon, voilà. Mais c'est pas non plus, ça ne régit pas sa vie, si tu veux. Il fait attention parce que, on en arrive à des âges où il faut qu'on fasse gaffe. Mais il faut pas que ça régisse nos vies. Moi, j'ai pas envie de dire, non, attends, là, j'ai pris de l'amidon. je vais pas prendre le poulet. Non, j'ai pas envie de dire ça. Je n'ai pas envie d'aligner ces phrases-là.
Je suis d'accord
ça,
avec vous.
Pas possible.
Et puis, il faut prendre du plaisir aussi.
Je veux du jus, je veux de la sauce. Je veux du jus.
Gras, c'est la vie.
Ça peut être un nouveau mouvement, ça.
Ça sera nouveauté du spectacle. Je veux du jus, je veux de la sauce.
Donc Justin Timberlake.
Non.
Non, mais c'est bien. Waouh. Mais il l'aurait gardé pour lui, sinon il fallait qu'elle sorte comme ça.
Il fallait. France Inter, les meilleurs moments de la bande originale. Avec Nagui.
Et il a choisi Amy Winehouse, Back to Black, wow. Guitare, voix, wow. Asaf Avidan.
He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bed. And me, my head high, my tears dry. Get out, my guy. you went back to what you knew. So far removed from all that we went through. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her now. Go back to us. I love you so much. But it ain't enough. You love blow and I love pop. And life is like a pipe, and now I'm a tiny penny rolling down the walls inside.
La bande originale, le best.
Et Daniel Morin a fait un rêve.
Absolument, les amis. Oui, attention, ce soir, il y a un prime exceptionnel sur France Télé. Exceptionnel déjà parce que c'est un prime service public sans Nagui. Eh ouais. Ils ont osé mettre un prime à l'antenne qui n'est pas produit par Airprod, la société multimilliardaire du Fennec du Paf. C'est prendre d'énormes risques. Mais quel est donc ce programme kamikaze qui ose défier le Ramsès de la télé de proximité? Hein? C'est quoi, Sonia de Villers?
Alors, il est des programmes télé, figurez-vous, dont on parle le lendemain à la machine à café. Et ce sera le cas demain après la diffusion ce soir de Cache Investigation. Enquête édifiante sur l'organisation du travail et le management par la terreur au sein de deux entreprises, Lidl et Free.
Mais non, enfin, Bécasse, on s'en fout des employés de chez Lidl et de chez
Free. Sois poli avec Sonia, toi.
Ils n'avaient qu'à aller à l'école, ils auraient de meilleurs boulots. Non. Et puis, excusez-moi les gars, mais quand tu travailles avec Nagui depuis 3 ans, le management par la terreur n'a plus de secret pour nous. Non. Le gros prime n'est pas produit par Nagui, c'est Plus belle la vie, la série culte de France 3, 13e saison. Près de 3400 épisodes, 30 scénaristes. Un lieu, Marseille. Une intrigue, la vie. Une mission, la rendre plus belle. Plus belle la vie. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a mis un coup. J'ai fait une sorte d'AVC provençal.
C'est quoi
alors, ça m'a plongé dans un sommeil aussi immédiat que terrifiant, aussitôt assailli par un rêve des plus dérangeants. Dans mon rêve, j'étais au stade Vélodrome, le temple de l'OM, avec un t-shirt et une casquette Paris est magique.
Oula.
Quand d'un seul coup, un autochtone s'approche de moi. Oh, Fala, tu fais quoi, le t-shirt PSG? Interloqué, je lui réponds. Excusez-moi, je suis français, je ne parle pas votre langue. Moi, venir en paix, moi, ami. Une remarque qui n'a pas fait rire mon interlocuteur, qui, juste avant que je me réveille en sursaut, avait l'air d'en vouloir à s'en prendre à mon intégrité physique. Une fois sorti de ma transe, j'ai immédiatement été voir un de mes maîtres spirituels, le maréchal Gadache. Bonjour maître.
Garde à vous. Repos.
Maître, j'ai rêvé que j'étais...
Malédiction.
Comment ça?
Une fois, je me suis retrouvé à Marseille. C'était l'enfer. Pas vacciné, j'ai attrapé toutes les maladies possibles. La canebière, un vrai nid à bactéries.
Mais ça veut dire quoi mon rêve maître?
Ça veut dire que tu es malade mon garçon. Ça sent le début de syphilis. Tu en as tous les symptômes. En ce moment, tu as le même regard que Nagui.
Oh merde, pas ça, c'est horrible.
La syphilis ?
Non, le regard de Nagui.
Ah, je comprends. Je comprends. Désolé, soldat, mais je peux rien pour toi.
Déprimé mais consciencieux, je me suis replongé dans Plus belle la vie et j'en ai appris des choses. En plus d'être une série à énorme succès, Plus belle la vie, c'est des livres, des BD, des jeux vidéo, des jeux de société. Et c'est surtout en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs tous les soirs, jusqu'à 6 millions comme le 18 novembre 2014. Des millions de fans qui se régalent parce que Plus belle la vie, c'est pas juste une série avec des décors en papier crépon. Non, c'est plus que ça. C'est aussi une série proche des gens, d'où le succès. Plus belle la vie, c'est des intrigues médicales.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu crois que j'ai fait une crise d'hypoglycémie ?
Bam ! Un diagnostic comme ça ! Plus belle la vie, c'est aussi de l'humour décalé.
Bien dormi ?
Ouais. Et toi ?
Ouais.
Eh oui, d'une situation, il n'y a pas de quoi rigoler. Dans Plus belle la vie, on n'hésite pas, on balance un fou rire. Ils s'en foutent, les gars, c'est des déglingos.
Et puis Plus belle la vie, c'est aussi hyper pratique comme série. Ça peut aller jusqu'à remplacer ton horloge de salon.
Il est quelle heure ?
Là, elle est 18h15.
Bon, bah, ça marche qu'une fois par jour, hein, 18h15. Mais c'est quand même hyper cool et très pratique. Alors, petit scoop avant l'épisode en prime de ce soir, petit spoiler, si vous préférez. Un matin, Emma, qui attend un enfant, se réveille et là, surprise, elle est plus enceinte.
Ah, oh ben ça, c'est complètement fou cette histoire.
Oui, Jean-Dominique, c'est complètement ouf. Elle ne se souvient de rien. A-t-elle accouché ? Comment a-t-elle accouché ? Ou qu'elle a accouché ? Qu'est devenu le bébé ? Élément de réponse ce soir sur France 3 à 20h55 dans un prime qui n'est pas produit par Nagui. À demain.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Des excuses à présenter, j'imagine, Daniel.
Ah, bah, désolé pour Gérard, le père de Manu, hein, ouais, qui est passé pour un alcoolique qui battait son fils et qui lui hurlait « Pas de ça chez moi !» quand ce dernier, le pauvre, se transformait en homme dans les toilettes. Désolé pour les auditeurs de France Inter qui ont eu affaire à un gros, gros mytho en la personne de notre invité, Manu, qui a raconté avec moult détails sa vie en couveuse après seulement 10 jours d'existence. En même temps, la mémoire, vous savez, parfois, c'est secret que... Merde, j'ai oublié. Bon. Désolé pour Nagui qui a souffert de la blague raciste du père Albert qui sous-entendait que tous les orientaux étaient des terroristes en puissance. En même temps, comme le disait Leïla à la pause, le racisme c'est comme l'homophobie et l'antisémitisme, quand c'est bien fait, c'est comme l'amour à plusieurs, c'est cool.
N'importe quoi. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons là demain, 11h, sur France Inter. En attendant, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.